Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Roquigny, mais aussi Clément Salazar, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. Troisième volet donc de notre série consacrée aux frontières disputées. Après avoir évoqué la ligne durant lundi, séparant le Pakistan de l'Afghanistan, et puis hier la frontière entre l'Inde et le Pakistan, on va s'intéresser ce matin au Kurdistan. Alors il n'existe pas, je le disais, d'État kurde indépendant, bien qu'il ait pourtant été prévu lors du traité de Sèvres en 1920, lorsque les Occidentaux recomposaient l'espace moyen-oriental sur les cendres de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, les Kurdes sont répartis sur quatre pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, un espace plongé dans un chaos dont les Kurdes voudraient voir émerger leur État tant espéré. Mais, je le disais, les obstacles sont nombreux et les États en présence peu enclins à s'y résoudre.
Et vive les Peshmergas ! Chaque maître occupé par Daesh, on va le libérer. Attention, il est derrière la barrière.
Ne restez pas tous au même endroit.
Allez-y, tirez vers là-bas.
Regardez, il est là. Vas-y, tire.
À l'aube, des terroristes ont essayé de fuir vers Mossoul. Les Peshmergas les ont tous tués. Regardez, celui-là, il a toujours son détonateur sur lui.
S'il n'y a que l'armée irakienne sans les Peshmergas ni les milices chiites, alors ce sera compliqué. Ils ne sont pas encore prêts pour reprendre Mossoul.
Depuis la prise de Mossoul et la proclamation du califat par l'État islamique en juin 2014, les combattants kurdes ont été en première ligne dans le combat contre Daesh et la reconquête des territoires occupés. Les Peshmergas constituent aujourd'hui un maillon essentiel de l'opération de reconquête de Mossoul qui a débuté en octobre dernier et qui approche de son terme. Les Kurdes irakiens, persécutés sous Saddam Hussein, ces victoires militaires, eh bien, peut-être constituent une occasion inespérée de faire entendre leur voix auprès du gouvernement de Bagdad. En effet, si le Kurdistan irakien est autonome depuis 1991, certaines forces politiques, à commencer par le président du gouvernement kurde irakien, Massoud Barzani, continuent à rêver d'indépendance, un horizon encore lointain et incertain. Lointain et incertain parce que le Kurdistan irakien est traversé par des divisions politiques internes, mais aussi des difficultés économiques liées notamment à la baisse du prix du pétrole, sa principale source de richesse. Alors l'engagement des Peshmerga contre l'EI peut-il constituer un argument de poids face à Bagdad à l'heure où Massoud Barzani annonce la tenue cette année d'un référendum d'indépendance? Le Kurdistan pourrait-il finalement l'obtenir et devenir un État voisin de la Turquie, notamment actuellement en guerre contre les rebelles kurdes du PKK? Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Vous êtes sociologue franco-kurde irakien, vous êtes chercheur associé à l'EHESS et vous êtes directeur de ce groupe de recherche indépendantisme, séparatisme, irrédentisme et construction de l'État à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer peut-être avec l'actualité, celle de la libération de Mossoul. Ça fait plusieurs mois qu'elle a commencé, en octobre dernier je le disais. Ces derniers jours, un nouveau front a été ouvert par l'armée irakienne dans le but de harceler les djihadistes qui retiennent encore, il faut le dire, quelques milliers de civils au cœur de la ville. Le chef d'état-major évoquait récemment une libération dans les 2-3 semaines, en tout cas avant le début du Ramadan, c'est très bientôt, ce sera le 27 mai. Quel regard vous portez sur cette nouvelle stratégie? Et puis surtout, vous semble-t-elle de nature à enfin en finir avec Daesh à Mossoul?
Alors, nous allons finir militairement avec Daesh. Daesh, comme je l'ai dit depuis plusieurs années, depuis 2014, n'est pas là pour rester. Daesh va disparaître militairement. Ça, c'est une évidence. Toutes les données.
D'ici le 27 mai, ça vous paraît possible?
On ne peut pas avancer une date. À un moment donné, les autorités irakiennes parlaient d'un mois, deux mois, trois mois. Moi, j'ai parlé d'une année et ça a duré une année. Mais en tout cas, avant le mois de septembre, tout sera fini. Mossoul sera nettoyé des combattants de Daesh, mais le problème n'est pas là. Le problème, qu'est-ce qu'on fait de la ville de Mossoul, la première ville sunnite en Irak, la capitale des sunnites en Irak? Mais plus largement, qu'est-ce qu'on fait de la communauté sunnite en Irak? Daesh, qu'est-ce que Daesh? Daesh, à un moment donné, était malheureusement le représentant de la conscience politique sunnite, la manifestation de la conscience sunnite, de l'oppression sunnite, de l'exclusion sunnite de la communauté sunnite en Irak. Une fois ces radicaux sont éradiqués, une fois la zone sunnite militairement nettoyée de ces djihadistes, qu'est-ce qu'on fait de cette zone? Est-ce que l'État-nation irakien, est-ce que ce gouvernement dirigé par les chiites irakiens, contrôlé par la République islamique de l'Iran, fait une place pour cette communauté sunnite ou pas?
Et aussi une place aux Kurdes, parce que quand on interrogeait récemment Massoud Barzani sur cette question de l'après-Daesh, justement, et en particulier dans la ville de Mossoul, il évoquait, lui, un modèle de gestion pluriethnique, multiconfessionnelle, expliquant notamment que la présence de quelques 200 000, 250 000 Kurdes avant l'invasion de Daesh à Mossoul justifiait, de son point de vue en tout cas, que les Kurdes participent justement à la gouvernance de la ville. Vous pensez que les Kurdes doivent avoir participé, en tout cas, à la gestion de cette Mossoul post-Daesh? C'est indispensable.
À Mossoul?
Oui, à Mossoul.
Ah oui, à Mossoul, je pense les Kurdes, les élites politiques kurdes ne sont pas prêtes et ne souhaitent pas participer à la gestion de Mossoul. Parce que tout simplement, ils savent la gestion de Mossoul est un enfer. Il est vrai, il y a une communauté, une petite minorité kurde dans la ville, mais cette petite minorité, ils vont pas s'aventurer pour sauver cette petite minorité dans la gestion de la ville de Mossoul.
Je vous en prie.
Ce n'est pas la stratégie des Kurdes. La stratégie des Kurdes aujourd'hui, ici et maintenant et ailleurs.
C'est pourtant ce que disait Barzani dans un récent interview donné au Figaro.
Au Figaro.
Et en même temps, c'est vrai qu'il disait aussi qu'il pensait qu'il fallait que les forces étrangères restent sur place. C'est peut-être aussi un moyen de sécuriser l'espace tout en ne participant pas précisément à la gouvernance.
Voilà. Alors, Barzani a deux niveaux de discours. Il a un niveau de discours à l'échelle internationale utilisé comme une carte de pression sur les différents acteurs pour obtenir le maximum possible de ces acteurs. Mais un deuxième niveau de discours qui reflète la réalité de la stratégie du GRK et surtout de Barzani, c'est...
Le GRK étant le gouvernement...
Le gouvernement régional du Kurdistan irakien. Comment protéger les 1025 kilomètres des zones disputées entre Bagdad et Erbil et récupérées pendant la guerre de Daesh par les Peshmerga? La stratégie. Et parmi les 1025 kilomètres, Mossoul n'y est pas dedans.
Vous dites comment récupérer, c'est au fond comment conserver ces territoires, parce qu'effectivement ça c'est un point très important qui est une des conséquences de l'émergence de Daesh. Les combattants kurdes ont libéré du joug de Daesh un certain nombre de villages de cette partie nord de l'Irak, et y compris des territoires qui sont situés en dehors des limites du gouvernement régional du Kurdistan irakien. C'est ce qu'on appelle donc les territoires disputés. Aujourd'hui c'est à peu près 40% de territoires en plus, à peu près.
Absolument.
Quel est très concrètement l'objectif? Conserver ces territoires? Les intégrer au Kurdistan irakien?
Écoutez, même la qualification de ces zones, même la description de ces zones, c'est un objet de désaccord entre Bagdad et Erbil. Bagdad appelle ces zones les zones de dispute, les zones disputées entre Erbil et Bagdad. Erbil l'appelle les zones détachées du Kurdistan irakien. Les zones détachées. Chaque mois a son importance dans ce contexte. C'est-à-dire quoi détachées? C'est-à-dire ces zones-là, historiquement, politiquement parlant, appartiennent au gouvernement régional du Kurdistan et du Kurdistan irakien. Et aujourd'hui, nous avons, c'est le discours des élites kurdes, surtout Barzani, nous avons libéré ces zones avec le sang de 1700 martyrs kurdes, entre guillemets. J'emploie la terminologie des acteurs kurdes, avec des milliers de blessés. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à rendre ces zones à l'autorité de Bagdad, au gouvernement chiite. Non, l'objectif, c'est quoi? C'est conserver et rattacher officiellement ces zones au gouvernement régional. C'est pourquoi dans la feuille de route proposée par Barzani lui-même sur la question du référendum, ils souhaitent intégrer ces zones détachées de Kurdistan dans le processus de référendum.
On va évoquer évidemment ce référendum qui est très important, mais vous avez dit des zones qui appartiennent historiquement au Kurdistan irakien. Et là, peut-être qu'il est nécessaire de faire un tout petit peu d'histoire. Regardons par exemple Kirkouk. Kirkouk qui ne fait pas officiellement partie, en réalité,
du GRK. Pratiquement, il est géré par le GRK.
Absolument. Mais quand on regarde l'histoire de cette ville, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, il y a environ un siècle, les Kurdes y étaient majoritaires. On dit environ 3/4 de la population était kurde. Lors du recensement de 1957, réalisé par le gouvernement à l'époque, on a les chiffres suivants: 187 000 kurdes, 109 000 arabes, 80 000 turkmènes et 10 000 chrétiens chaldéens. Donc on voit qu'ils sont encore majoritaires, mais beaucoup moins que 50 ans auparavant. Et puis à partir des années 80, il faut rappeler aussi que le régime de Saddam Hussein va s'engager dans un processus d'arabisation conduisant à chasser les populations non arabes et donc les kurdes, et à inciter les Arabes à s'y installer. C'est un véritable nettoyage ethnique qu'on appelle Anfal, qui a conduit, dit-on, à l'élimination d'à peu près 180 000 Kurdes. Alors, on n'a pas évidemment les chiffres exacts, mais il y a eu vraiment ce phénomène. La chute de Saddam Hussein, donc, va conduire les Kurdes à y revenir en masse, même si, là encore, on ne sait pas exactement combien ils sont. Et donc, Kirkouk ne fait pas partie officiellement, je le disais, de la région autonome du Kurdistan, bien qu'on l'appelle parfois la Jérusalem kurde. Mais vous le disiez, l'article 140 de la Constitution prévoit la tenue d'un référendum pour un éventuel rattachement de cette ville. D'ailleurs, un référendum qui aurait dû se tenir il y a déjà 10 ans. Donc on voit bien que finalement, ce qui se passe à Kirkouk est au cœur du différend avec Bagdad. Si on trouve un accord sur Kirkouk, finalement, on trouvera un accord général sur les territoires disputés.
Alors, une bonne introduction, mais il faut séparer deux terminologies, deux concepts. Celui du kurde et celui de kurdistanais. Le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan et les élites kurdes ne parlent pas de ces zones comme des zones kurdes, mais comme des zones kurdistanaises. Les élites kurdes nous disent jamais que Kirkouk est une ville kurde, mais c'est une ville kurdistanaise. Qu'est-ce que la différence entre les deux? Et même le Kurdistan irakien n'est jamais considéré comme le pays des Kurdes, mais comme le pays des Kurdistanais. Mais,
oui, parce que les Kurdes veulent se faire aussi les protecteurs d'autres ethnies.
Voilà. Exactement. Lorsque le président turc est intervenu fortement au mois d'avril, la dernière semaine du mois de mars, au début du mois d'avril, avril de cette année, pour dire que Kirkouk n'est pas une ville kurde, le premier ministre kurde Neçirvan Barzani répond: mais le président turc a tout à fait raison que Kirkouk n'est pas une ville, n'a jamais été une ville kurde, mais c'est une ville kurdistanaise. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez si bien dit, les Kurdes veulent se mettre en scène à l'échelle internationale, régionale, mais aussi locale, et ce qui est local, comme les protecteurs des minorités ethniques, mais aussi religieuses, mais aussi politiques. Au Kurdistan, on a toutes les minorités. Alors, pour répondre...
Là, c'est très important. Là, je m'arrête un instant, si vous me permettez. Il y a cette mise en scène et il y a aussi la réalité. Parce qu'il y a des accusations qui ont été portées à l'égard des Kurdes, dont on a dit qu'ils auraient profité de la lutte contre Daesh pour pratiquer une forme de purification des zones libérées, je mets entre guillemets. Autrement dit, qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient dans ces régions dites disputées, ils auraient écarté les Arabes sunnites.
Alors, je nie pas cette hypothèse. Hein. Je le prends comme hypothèse parce qu'il faut la vérifier. Mais je pense, en termes stratégiques, cela ne correspond pas à la vision du GRK. En termes stratégiques, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 1 700 000 sunnites déplacés au Kurdistan irakien. Il y a des élites sunnites irakiennes qui se trouvent massivement à Erbil. Et c'est à partir d'Erbil qu'ils organisent leur vie politique, économique, voire même leur représentation religieuse. Comment ça se fait, hein? Il y a une contradiction entre cette hypothèse et la politique du GRK. Comment ça se fait que GRK accueille 1 700 000 déplacés, tout en sachant qu'au Kurdistan irakien, ils ne sont que 5 millions d'habitants. Hein? 5 millions d'habitants, c'est énorme. Hein? C'est énorme politiquement, c'est énorme économiquement, c'est énorme. À toutes les échelles, c'est énorme. Hein? Alors, d'un côté et de l'autre...
Ça ne vous paraît pas cohérent avec
C'est pas cohérent, premier mot. Deuxièmement, les Kurdes, ils veulent se mettre en scène à l'échelle internationale, régionale et locale, comme les protecteurs des minorités dans les zones détachées, dans les zones disputées ou détachées au Kurdistan. Pourquoi? Parce que pour dire, voilà, nous avons un modèle de la cohabitation religieuse, politique, etc. Donc, je voulais dire, à plusieurs niveaux, cette hypothèse n'est pas cohérente.
Nous, la famille Barzani, nous avons commencé la révolution il y a 120 ans. Nous n'avons jamais abandonné, nous avons survécu. Grâce à Dieu, nous avons maintenant notre région semi-autonome et on espère rapidement voir notre pays indépendant avec notre drapeau.
Cet homme qu'on entendait, c'est Sirwan Barzani, qui est un homme d'affaires, qui est un général des armées du Kurdistan irakien et qui est le neveu de Massoud Barzani. Massoud Barzani, donc le président du gouvernement autonome du Kurdistan irakien, qui a expliqué qu'il allait organiser un grand référendum pour préparer l'indépendance. Est-ce que vous pensez que ce référendum promis va avoir lieu? Et si c'est le cas, il y a plusieurs questions qui se posent, notamment de savoir qui sera autorisé à y participer, compte tenu du fait que depuis des années, il y a ces allers-retours incessants des populations renvoyées de part et d'autre, qu'on évoquait juste avant. Est-ce qu'il aura lieu? Je sais que vous vous rendez dans quelques jours dans le Kurdistan irakien où vous allez justement rencontrer Barzani. Vous lui poserez la question, mais votre intuition.
Je viens de publier un article sur justement cette question. Barzani est-il sérieux sur la question du référendum? Jusqu'où Barzani ira avec la question du référendum? Alors, il y a deux options devant Barzani. La première option, c'est la situation objective. La deuxième option, c'est le risque. La première option, objectivement, je pense que Barzani, le GRK de Massoud Barzani, n'est pas en mesure d'organiser un référendum sur la question de l'indépendance du Kurdistan. Pourquoi, objectivement, il n'est pas en mesure? Parce que, tout simplement, son GRK souffre des grandes fragilités. Fragilité politique, hein, fragilité économique, peut-être vous
allez y revenir.
Fragilité militaire, fragilité démocratique, diplomatique. Ces fragilités, ces grandes fragilités ne nous permettent pas à Barzani d'organiser un référendum. Hein. Ça, c'est à l'échelle objective. Ouais, à l'échelle du risque. Si vous me permettez,
je vous donne
les deux options et après, posez vos questions.
Allez-y, Adèle.
La deuxième option, c'est le risque. C'est que Barzani, malgré toutes ses fragilités, il prend le risque. Il organise le référendum, surtout dans les zones de son influence, c'est-à-dire, selon votre carte, Erbil, Dohuk, et pourquoi pas Kirkuk, Slimani, on n'est pas tout à fait sûr. Hein. Il organise dans ces zones d'influence, il prend le risque, il déclare l'indépendance malgré tout. Pourquoi pas?
Alors, regardons la deuxième option, et puis après on reviendra sur les fragilités internes qui sont évidemment très importantes. Mais la deuxième option, il prend ce risque. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a déjà dit qu'il fallait au préalable qu'il demande l'autorisation de Bagdad. Barzani a dit qu'il en était hors de question, il le refuse catégoriquement. Jusqu'où peut aller l'affrontement entre le gouvernement du Kurdistan irakien et l'État central? Est-ce que, mettons les choses sur la table, est-ce qu'un conflit armé est possible?
Oui, c'est avec ou sans référendum, le conflit armé est déjà possible entre Erbil et Bagdad. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, il y a 1025 kilomètres zone détachée ou disputée entre les deux capitales, hein, les deux capitales, pour le dire ainsi. Alors, même sans soit cette question de référendum, il y a déjà un dossier chaud de tension qui peut provoquer cette confrontation militaire entre Bagdad et Erbil. Alors, avant l'arrivée de Daesh en juin 2014, l'armée irakienne était sur la frontière, les frontières du JRK. On parlait même de l'invasion de Bagdad, hein, du Kurdistan irakien. Les forces de Peshmerga, ils étaient prête pour confronter cette armée irakienne sous la direction de Nouri Maliki. Alors, personnellement, je pense que Bagdad ne laissera jamais ces zones de dispute, surtout ces zones se trouvent dans le territoire sunnite, dans le pays sunnite, dans ce qui est connu historiquement, dans l'histoire récente, je parle du XXe siècle, dans le pays des sunnites. Et donc, ça c'est déjà un dossier. Le deuxième dossier, c'est le statut des Peshmerga, hein. À ce jour-là, l'Irak a deux armées. Une armée nationale constituée des chiites et des sunnites et une armée kurde. Donc, est-ce qu'un pays a le droit, peut gérer à la fois deux armées? Mais encore grave, chaque mois, le gouvernement de Haider Abadi doit verser $1 milliard au JRK. Depuis 3 ans, le gouvernement irakien n'a pas versé un seul dollar. Un autre dossier qui peut provoquer cette guerre. Avec la tenue du référendum, bien évidemment, la confrontation militaire n'est absolument pas exclue entre les deux pays.
Alors, ces fragilités. Parce que, en fait, depuis l'autonomisation du Kurdistan irakien en 91, la région fonctionne comme un mini-État avec son gouvernement, avec son parlement, avec son armée, vous le disiez à l'instant.
Avec sa cour de justice.
Absolument. Les impôts sont gérés aussi par le gouvernement local. Et pourtant, vous dites que le Kurdistan irakien, il souffre de fragilités très importantes et qui pourraient peut-être mettre en péril précisément ce rêve de l'indépendance. Alors, quelles sont ces fragilités? Commençons peut-être par les fragilités politiques.
La fragilité politique. Aujourd'hui, plus que jamais, le Kurdistan irakien est déchiré à l'intérieur. Pour organiser un tel référendum, nous, objectivement parlant, nous avons besoin le minimum du consensus politique. Or, aujourd'hui, ce consensus politique n'est pas au rendez-vous. Vous avez un président du GRK, Massoud Barzani, qui a fini son mandat depuis août 2015. Déjà depuis août 2013, ça a été renouvelé jusqu'à août 2015, et au lieu de quitter démocratiquement son poste et organiser des élections, hein, il est resté sans aucun mandat juridique, hein, sans aucun mandat. Alors, une semaine plus tard, son premier ministre, Nechiran Barzani, licencie les 5 ministres de Goran, du mouvement Goran, la deuxième force politique, hein, pas militaire, la deuxième force politique au Kurdistan irakien, il les vire. Aujourd'hui, vous avez, pour aller vite, hein, politiquement parlant, vous avez un Kurdistan irakien déchiré, divisé en 12 zones d'influence. La zone de Suleymaniye, hein, et la zone d'Erbil. La zone de Suleymaniye, de l'UPK, de Talabani, la zone de d'Erbil, sous l'influence de Barzani. Et chaque zone a sa propre stratégie, ses propres actions, ses propres projets, sa propre gestion, son gouvernement local. Aujourd'hui, il n'y a rien qui relie ces deux zones, pratiquement à l'échelle pratique. Et pourtant, théoriquement, il y a toujours un GRK, hein, un GRK que j'appelle la vitrine.
Mais dans ce GRK, il y a un gouvernement de coalition entre précisément le PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, donc dirigé par Massoud Barzani, et puis l'Union patriotique du Kurdistan, fondée par l'actuel président irakien, rappelons-le, Jalal Talabani.
Oui, vous avez un GRK pardonnez-moi pour l'expression, artificielle, parce que Monsieur Barzani, oui, il est le président du GRK, mais il peut pas déplacer un policier dans la zone de Souleymania, cette grande, cette vaste zone, hein, d'un bureau à un autre bureau, d'un poste à un autre poste. Il a pas le pouvoir de même de se rendre dans un village à Halabja sans l'autorisation du bureau politique de l'UPK. Et le vice premier ministre kurde Kubat Talabani, le fils de Talabani, n'a pas le pouvoir de se rendre à Dohuk sans l'autorisation du bureau politique du PDK. Oui, le GRK existe, mais le GRK à l'état pratique, non, il est divisé.
C'est extrêmement problématique parce que ce qu'on entend, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'unité politique au Kurdistan irakien.
Il n'y a pas d'unité politique.
Que par ailleurs, ce n'est pas une vraie démocratie. Vous le disiez, puisque le chef du gouvernement, Massoud Barzani, refuse de quitter un poste qu'il aurait dû quitter il y a déjà 2 ans, c'est pas une démocratie.
Quand on refuse de quitter son poste, c'est problématique. Oui, il n'y a pas de démocratie. Nous ne pouvons pas parler d'un système démocratique au Kurdistan irakien.
C'est pourtant ce que vendent précisément les Kurdes. C'est-à-dire, nous avons un projet éminemment démocratique pour le futur de cette région.
Est-ce que vraiment les Kurdes, les élites kurdes vendent ce projet ou ce sont les élites occidentales qui vendent le projet d'un Kurdistan démocratique, un partenaire fiable, démocratiquement, sécuritairement, militairement, financièrement, etc. Est-ce que c'est une illusion construite par les élites occidentales ou est nourrie bien évidemment par les élites kurdes, hein? Moi, personnellement, je pense non. Parler d'une démocratie kurde est une erreur. Le Kurdistan irakien, écoutez-moi, s'il vous plaît, le Kurdistan irakien ne se trouve pas en France, en Europe, en Occident. Le Kurdistan irakien n'est pas une province de Suède, de Norvège, de l'Allemagne, de la France. Le Kurdistan irakien fait partie d'un système régional qui s'appelle le Moyen-Orient. Le Kurdistan irakien se trouve en Irak, hein, et il faut le traiter dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Hein. Si on prend pas en compte le contexte local, régional et international du Kurdistan irakien, parler de la démocratie d'une manière abstraite, ça n'a aucun sens. Alors, est-ce qu'au Kurdistan irakien, vous avez un pluralisme politique? Oui. Est-ce que vous avez un parlement élu? Oui. Hein? Oui, on peut pas dire non. Est-ce qu'au Kurdistan irakien, vous avez des journaux libres? Oui, vous avez à peu près 150 journaux et revues. Hein? Est-ce que vous avez des chaînes paraboliques par centaines? Oui. Mais est-ce que tout ça n'est pas contrôlé soigneusement, comme je le dis dans mon article, par les deux bureaux politiques de l'UPK et le PDK? Si c'est une démocratie... C'est un processus. Je dis pas une démocratie. Je n'ai jamais employé le terme démocratie, la qualification de démocratie démocratique pour le Kurdistan irakien. Je dirais c'est un processus d'ouverture, du pluralisme, mais contrôlé soigneusement par les deux partis politiques.
Alors, fragilité politique, il y a aussi une fragilité militaire. Puisque il y a une milicisation, c'est ce que vous expliquez dans votre article, de ces forces armées. Ces dernières années, le PDK et l'UPK n'ont pas réussi à dépasser leurs divergences et à construire une véritable armée nationale. En fait, les 3/4 des Peshmerga, c'est ce que vous dites, n'ont pas de statut gouvernemental et dépendent directement soit du PDK, soit de l'UPK. Il y a aussi des divergences économiques, on va avancer un tout petit peu, Adel Bakawan, mais ce qui, au fond, la conclusion de toutes ces fragilités, c'est ce que vous dites, vous, Adel Bakawan, c'est que ce GRK, ce gouvernement régional du Kurdistan, il va finir imploser. Il va finir par imploser.
Voilà, c'est mon hypothèse. Hein. C'est mon hypothèse majeure que le GRK de Massoud Barzani va imploser à un moment donné parce que, objectivement parlant, il n'est pas en mesure de continuer avec cette politique économique, cette politique militaire, cette politique diplomatique, ses relations diplomatiques avec son environnement sont fragiles, sa politique économique est en panne, sa politique, même son système politique, tout est en panne dans le JRK de Massoud Barzani. Pour moi, l'hypothèse par excellence, c'est l'hypothèse de cette implosion dont je parle dans mes articles, et non pas une indépendance solide du Kurdistan irakien.
Oui. Il y a une autre fragilité qu'on n'a pas évoquée, c'est la fragilité diplomatique. Regardez, Barzani était venu à Paris il y a très peu de temps, à la sortie de sa réunion avec François Hollande. Écoutez ce qu'avait dit François Hollande à propos de cette hypothèse d'une indépendance.
Les Peshmerga ont joué un rôle très important dans la première phase de l'offensive de reconquête de Mossoul. Et après ce travail considérable, c'est aux forces irakiennes maintenant de chasser Daesh de Mossoul ouest. Et nous devons tout faire pour que, avec la coalition, nous puissions appuyer les forces irakiennes dans cette reconquête et porter un coup fatal à Daesh en Irak. Je soutiens le Kurdistan, comme je l'ai montré d'ailleurs dans la période la plus difficile, qui était dans l'été 2014, lorsque l'entité du Kurdistan était directement menacée.
Je soutiens le Kurdistan. Là, il faut faire attention aux mots, Adel Bakawan, parce qu'il ne dit pas qu'il soutient l'idée d'une indépendance du Kurdistan.
Il soutient le Kurdistan irakien dans sa guerre contre l'organisation de l'État islamique. Si vous me donnez une minute pour faire le point. Le JRK de Barzani a une relation très très fragile avec Téhéran. Le guide suprême iranien, Ayatollah Khamenei, a refusé de recevoir M. Barzani à Téhéran. En 2014, août 2 ou 3 2014, lorsque les soldats du calife attaquent Erbil, ils sont à 15 kilomètres de la capitale, Barzani demande l'aide d'Erdogan, son allié, hein, son ami allié. Erdogan refuse d'intervenir pour protéger Erbil, il préfère l'organisation terroriste. Hein. Erdogan a menacé encore une fois la première semaine d'avril 2017, le JRK. De couper ses relations avec si elle ne retire pas le drapeau kurde à Kirkuk, ses relations avec les pays, avec Bagdad, il y a les quatre dossiers dont j'ai parlé, de discorde entre les deux, ses relations avec les États arabes, depuis l'échec politique de l'Égypte, ce sont les pays de Golfe, arabiques ou persiques, ça dépend comment on les qualifie, les élites nationalistes arabes qui gèrent ces pays-là, qui regardent avec beaucoup de d'interrogation le JRK de Barzani. Alors maintenant, les pays occidentaux, le débat au Kurdistan irakien, c'est sur la réaction, ou plutôt la position, le positionnement des pays occidentaux, notamment les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, vis-à-vis des Kurdes post-Daesh. Alors, la majorité des Kurdes, la majorité des élites kurdes politiques et intellectuelles pensent que ces pays, une fois la guerre est finie avec Daesh, les pays occidentaux préféreront Bagdad, Ankara et Damas et Téhéran, et non pas Erbil.
Nous parlons de cette question kurde, de cette hypothèse de l'émergence d'un État kurde indépendant. On est avec Adel Bakawan, on va s'intéresser à l'avenir des Kurdes syriens.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Hier, le président a autorisé le département de la défense à équiper les membres kurdes des forces démocratiques syriennes parce que c'est nécessaire pour gagner le combat contre l'État islamique à Raqqa en Syrie. Associé avec les États-Unis et la coalition, les forces démocratiques syriennes sont les seules troupes au sol qui peuvent reprendre Raqqa efficacement et rapidement. Nous sommes profondément conscients des enjeux de sécurité pour nos partenaires de la coalition en Turquie et nous voulons rassurer le peuple et le gouvernement turc. Les États-Unis sont engagés pour empêcher les risques sécuritaires supplémentaires et pour protéger notre allié de l'OTAN.
Voilà, cette voix qu'on entendait, c'est celle de Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche, annonçant que les États-Unis allaient armer les forces kurdes pour les aider dans la reprise de Raqqa. On va retrouver Fabrice Ballanche depuis Washington. Fabrice Ballanche, qui est géographe, chercheur invité au Washington Institute, et qui revient tout juste du nord-est de la Syrie, en zone kurde. Il est à Kamishli, à Sakeh, à Tel Tamer. Alors, on attend depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, l'offensive finale qui devrait libérer la ville syrienne, cette fois de Raqqa, aux mains de l'État islamique depuis 2014, et désormais le principal fief de l'EI en Syrie. Syrie. Récemment, la petite agglomération de Takba, en amont de la ville, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est, a été reprise par les forces démocratiques syriennes. C'était une étape importante pour lancer l'offensive au sol. Et la prise de Takba, elle s'est faite justement le lendemain de cette annonce de Washington, de cette intention de fournir directement des armes aux unités de protection du peuple kurde. Cette composante kurde des forces démocratiques syriennes, ce serait alors une première. Comment l'interpréter? Et qu'est-ce que cette annonce nous dit de ce que pourrait être à l'avenir, justement, dans une Syrie post-Daesh, le soutien des États-Unis à l'égard des Kurdes syriens? Fabrice Balanche nous répond.
Alors tout d'abord, les États-Unis ont, depuis l'affaire de Kobané en 2014-2015, ont livré des armes aux forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire aux YPG, aux Kurdes, mais officiellement, c'était pour les forces démocratiques syriennes. Là, le fait que Donald Trump dise « je livre des armes aux YPG », c'est-à-dire la milice du PYD, dont tout le monde sait que c'est la branche syrienne du PKK, mais enfin les États-Unis font subtilement la différence parce que sinon ils ne pourraient pas livrer des armes à un groupe qu'ils reconnaissent comme terroriste. Ça c'est très important parce que c'est un message qu'il envoie à la Turquie, à Erdogan, qui ces dernières semaines a bombardé les territoires kurdes, a menacé les territoires kurdes syriens d'une invasion, et évidemment cela aurait fait échouer la libération de Raqqa, parce que les Kurdes ont dit aux Américains, si vous ne nous protégez pas, si vous ne bloquez pas Erdogan, nous n'allons pas prendre Raqqa. Donc Donald Trump a décidé de livrer ses armes, bon, c'était déjà prévu, mais au YPG, ça c'est vraiment un message clair à Erdogan, je soutiens les YPG, j'en ai besoin pour libérer Raqqa, donc vous ne les touchez pas, tout du moins jusqu'à ce qu'on ait éliminé l'État islamique de Syrie. Ensuite, tout dépendra des offres des Américains, mais a priori, ils n'ont pas l'intention d'installer des bases permanentes dans cette région, parce que on est tout de même dans une zone tenue par le PKK, et ça, pour eux, c'est pas possible à long terme.
D'accord, donc quand finalement la Turquie réagit à cette annonce, parce qu'on a entendu évidemment Erdogan extrêmement virulent après cette annonce, vous pensez qu'il n'y aura pas de réaction de la part d'Ankara? Le message envoyé par Washington sera suffisant pour que précisément la Turquie ne s'en prenne pas davantage encore aux Kurdes syriens? Vous avez raison de rappeler que ces dernières semaines, il y a eu des bombardements turcs sur des positions kurdes syriennes. Ça n'ira pas plus loin? Ça suffira pour Ankara?
Ça devrait suffire. Mardi 16 mai, Erdogan est à Washington. La visite se passe très bien. On avait dit qu'elle pourrait être annulée, mais en fait pas du tout. Erdogan fait justement monter les enchères. Il veut obtenir une coopération sécuritaire, un échange de renseignements contre le PKK avec les États-Unis. Donc ça a été accepté. Il veut obtenir des choses sur la répression des Kurdes en Turquie. Les États-Unis sont très discrets sur ce qui se déroule aujourd'hui en Turquie. La Turquie devient une dictature, une répression atroce contre tout le monde. On n'entend pas les États-Unis condamner la Turquie. Donc, il se sert aussi de cette menace sur les Kurdes syriens pour pouvoir imposer son pouvoir personnel en Turquie. Donc, ça devrait suffire. Les Américains ont quand même déployé des troupes à la frontière syro-turque pour éviter de nouveaux bombardements. Parce que là, si les Turcs touchaient les soldats américains, ça prendrait quand même une autre proportion. Mais par mesure de précaution, ils ont quand même installé des djihadistes à la frontière.
Et projetons-nous un petit peu, parce que le but aujourd'hui des États-Unis, c'est clairement l'éradication de Daesh. Projetons-nous dans un avenir qui s'est peut-être pas si lointain d'une Syrie post-Daesh. Parce que la force des Kurdes syriens, ça a été de prendre à la fois des distances vis-à-vis du régime de Bachar al-Assad, mais aussi de la rébellion anti-Assad, tout en se positionnant évidemment en première ligne dans cette lutte contre Daesh. Et c'est précisément leur efficacité à éradiquer les djihadistes qui leur confère ce poids politique extrêmement important aujourd'hui. Une fois que la menace djihadiste sera écartée, qu'est-ce qui va rester de leur influence? Est-ce qu'ils risquent pas d'être, j'allais dire une fois encore, totalement disqualifiés des processus de décision sur l'avenir du pays, sur leur propre avenir, Fabrice Balanche?
Oui, alors les Kurdes avaient intérêt à se battre contre Daesh dans le nord de la Syrie parce que ça leur permettait d'unifier les trois cantons kurdes, Afrin, Kobané et Kamishli. Donc ils ont réussi à unir Kobané, Kamishli avec le soutien américain contre Daesh. Mais lorsqu'ils ont voulu réunir le troisième canton, celui d'Afrin, après la prise de Manbij en août, là Erdogan est intervenu et les États-Unis n'ont pas soutenu les Kurdes. Donc dans ces conditions, pourquoi prendre Raqqa? C'est un territoire arabe, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas l'intention de rester à Raqqa. Ils espèrent tout simplement avoir une reconnaissance internationale pour avoir libéré Raqqa, avoir débarrassé la communauté internationale de l'État islamique en Syrie, et donc avoir un soutien dans la création de leur territoire autonome dans le nord de la Syrie, une protection américaine. Mais enfin, là, ils sont de plus en plus dubitatifs, parce qu'ils se doutent bien qu'entre eux et la Turquie, les États-Unis finiront quand même par choisir la Turquie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se rapprochent des Russes. Enfin, ils se sont rapprochés des Russes, même dès l'intervention russe en septembre 2015. Ils voulaient quand même savoir si cette intervention était durable, quel était le pouvoir russe en Syrie. La prise d'Alep a fait qu'ils ont constaté qu'évidemment, le pouvoir russe est bien installé en Syrie pour durer. Donc, ils se rapprochent dans l'ouest de la Syrie des Russes. Ils ont la protection russe contre les Turcs.
Mais jusqu'où ils pourraient l'avoir ? Est-ce qu'ils pourraient l'avoir, y compris face à la Turquie, qui est quand même l'allié de la Russie, hein ?
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, Erdogan est rentré en Syrie avec l'autorisation des Russes en août 2016, après le congrès de Saint-Pétersbourg. Il pourrait également revenir en Syrie avec l'assentiment russe, parce que les Russes ne veulent pas non plus d'un PYD, d'un territoire kurde trop fort en Syrie, mais ils en ont besoin, parce que c'est grâce à la menace kurde que la Turquie, finalement, s'est rapprochée des Russes sur le dossier syrien.
Le PYD étant donc la branche syrienne du PKK, hein.
Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, on sait que Poutine a vraiment tordu le bras à Erdogan au printemps 2016, où il a donné des manpads, c'est-à-dire des missiles sol-air au PKK en Turquie, qui ont abattu un hélicoptère, un manpad de dernière génération russe, donc il ne pouvait pas se procurer au marché noir. Erdogan a compris le message, s'il ne voulait pas qu'il y ait des dizaines de manpads distribués au PKK, il avait intérêt à se rapprocher de la Russie.
Fabrice Ballanche, c'est très intéressant de voir comment se composent et se recomposent justement les alliances. Là, vous nous parliez de la Russie, vous nous disiez tout à l'heure à propos des États-Unis qui ne soutiennent pas toujours et pas toujours de façon inconditionnelle les Kurdes. Faisons encore une hypothèse. Après l'éradication de Daesh, qui est donc la priorité de Washington, je le disais, si les Kurdes sont lâchés par les Américains, est-ce qu'ils pourraient forger de nouvelles alliances et par exemple avec le régime de Damas, avec qui il pourrait peut-être négocier, je ne sais pas, alors peut-être pas un régime d'autonomie exactement comme pour le Kurdistan irakien, mais il pourrait peut-être négocier des choses. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble possible que celui d'une nouvelle alliance avec le régime de Bachar al-Assad ?
Ah, tout à fait. Si les États-Unis se retirent, les Kurdes n'auront pas le choix de toute façon que de se rapprocher de Damas. De toute façon, les ponts ne sont pas coupés avec Damas. J'étais à Kamishli au mois de mars. La moitié de la ville est tenue par le régime syrien. Ça se passe très bien avec les milices kurdes. Les Kurdes peuvent utiliser l'aéroport pour aller à Damas. Enfin, il y a une route a été réouverte entre le territoire kurde et Damas. Les échanges économiques fonctionnent très bien. Donc, ils pourront très bien, pourquoi pas, échanger Raqqa contre la reconnaissance d'une autonomie de facto, non officielle évidemment, mais de facto pour leur territoire.
D'accord, donc ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, il y a encore des intérêts réciproques aujourd'hui, malgré le conflit, et qu'en réalité, on est dans une situation où le régime et les Kurdes sont des alliés de facto, et que donc, en réalité, cette alliance existe déjà, et qu'elle pourrait aboutir à quelque chose de nouveau, à une forme de négociation avec une forme d'autonomisation. Alors, il faut voir quelles en seraient les modalités exactement, mais c'est un scénario qui est en réalité déjà en route, quasiment.
C'est un scénario qui est en route. Tout dépendra en fait de ce que feront les États-Unis en Syrie, si après l'éradication de l'État islamique, qui devrait intervenir sans doute d'ici la fin de l'année, voire enfin encore milieu de l'année 2018, s'il décide de rester en Syrie, de s'implanter dans l'est de la Syrie, mais à mon avis ça m'étonnerait, à ce moment-là les Kurdes n'auront pas le choix que de se rapprocher de Damas et d'obtenir la protection russe contre des Turcs qui n'ont qu'une envie, c'est de tronçonner le territoire kurde en petits morceaux.
Voilà, Fabrice Ballanche qui était avec nous depuis Washington, qu'on a eu hier soir au téléphone, qui est géographe, chercheur invité au Washington Institute et maître de conférence à l'Université Lyon 2. Réaction à Adel Bakawan sur cet avenir des Kurdes syriens ?
La force des Kurdes syriens, c'est qu'ils ont pu à la fois protéger leurs relations diplomatiques avec Damas, Washington et Moscou. Hein, les trois acteurs en pleine contradiction. Moi, je pense dans ce système régional, en présence des États-Unis, de la Russie, la Turquie peut trouver son compte. Comment? Tout simplement, la Russie et, les États-Unis peuvent proposer à la Turquie de d'éradiquer, participer à l'éradication du PKK à la fois en Turquie et au Kurdistan irakien. Par contre, la Turquie aussi lâche la main sur les Kurdes syriens. Voilà. Donc c'est une carte. Hein. Je vous donne le PKK. On va éradiquer le PKK. Vous lâchez les Kurdes de Syrie. Donc c'est tout à fait possible que la Turquie aussi trouve son compte.
Alors, il y a un pays dont on n'a pas parlé, où pourtant il existe beaucoup de Kurdes, à peu près 10 millions de Kurdes, c'est l'Iran. À peu près 13% de la population totale, ils sont essentiellement concentrés dans la partie nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Irak et la Turquie, dans la région de Rojela, dont la capitale est Mahabad. Mahabad qui fut d'ailleurs la capitale d'un éphémère, une éphémère république de Mahabad, qui a été fondée en janvier 46 par Hassi Mohammad, un leader nationaliste à la tête d'un mouvement autonomiste kurde iranien. Cette déclaration d'indépendance lui avait d'ailleurs valu d'être tout simplement exécuté par le régime iranien après qu'il ait repris l'ensemble de la région de laquelle s'était retiré l'URSS à l'époque. La crise irano-soviétique, c'était l'une des premières expressions de ce qui allait devenir la guerre froide. On va retrouver un nouvel invité, Khosro Abdollahi. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de kurde à l'INALCO et vous êtes le représentant du Parti démocratique du Kurdistan iranien. J'aimerais qu'on s'intéresse aux velléités indépendantistes kurdes aujourd'hui en Iran. Vous dites qu'il existe une forme de renouveau de cette résistance des Kurdes de l'Iran.
Oui, tout à fait. Vous savez que depuis la révolution iranienne, les Kurdes, devant les aspirations identitaires kurdes, malheureusement, le nouveau régime, la République islamique, n'a répondu que par la répression. Donc les Kurdes étaient obligés de se défendre. Et donc, il y a eu bien sûr la guerre entre les Kurdes, les partis politiques kurdes et le régime, jusqu'en 93, vous voyez, jusqu'en 93, jusqu'à, à vrai dire, que le Kurdistan irakien a été, disons, accepté le fédéralisme pour le Kurdistan irakien avec, et à ce moment-là, bien sûr, les Kurdes, pour défendre les acquis kurdes au Kurdistan irakien, les Kurdes iraniens ont cessé, à vrai dire, la lutte armée pour soutenir les acquis des Kurdes en Irak. Voilà, et bien sûr, les Kurdes iraniens, jusqu'en 2003, ils demandaient une sorte d'autonomie régionale pour les régions kurdes. Mais depuis cette date, les Kurdes, presque tous les partis politiques kurdes iraniens demandent le fédéralisme.
Le fédéralisme. Khosro Abdollahi, dans quelques jours, il va y avoir des élections en Iran pour élire donc leur président. Hassan Rouhani, l'actuel président, est candidat à sa propre succession et il part a priori favori du scrutin. Est-ce que cette élection représente un enjeu pour les Kurdes d'Iran? Et de façon générale, comment est-ce qu'ils ont été traités par le régime iranien sous le mandat d'un Hassan Rouhani dont on avait dit au moment de son élection en 2013 qu'il était un président modéré, l'homme de la normalisation, Khosro Abdollahi?
Non, malheureusement, c'est que ce soit au niveau des droits de l'homme, rien n'est changé, malheureusement. Tout ça, c'est la propagande. C'est que vraiment, surtout dans les régions kurdes, les pendaisons, les exécutions ont augmenté. De sorte que par rapport à la population kurde en Iran, on peut dire que pendant ces 4 années, plus de 50% des exécutions étaient de Kurdes.
Il y a aussi une question qui se pose, Khosro Abdollahi, c'est celle des représentants iraniens kurdes. Il y avait eu pendant des années une très grande figure du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, qui était Rahman Gasemlou, qui avait été assassiné en 1989 à Vienne par des individus qui étaient probablement mandatés par le régime iranien. Et peut-être que d'ailleurs au-delà de son identité kurde, c'était surtout son opposition absolument frontale au régime de la République islamique qui lui avait valu d'être assassiné. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe plus de leaders connus, reconnus par les Kurdes iraniens, comme ça avait été le cas avec cet homme-là. Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des failles aujourd'hui de cette lutte kurde-iranienne?
Vous savez, c'est Peut-être, hein, c'est bien sûr, vous savez, les personnalités, ça peut jouer, ça, c'est une réalité, ça. Rassemblou, c'était une personnalité de grande envergure internationale, c'est vrai, mais c'est que, vous savez, la lutte du peuple kurde, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ce qu'on vous-même, vous venez de parler de la République du Kurdistan à Mahabad, donc, non, c'est que le peuple kurde n'accepte pas que ses droits soient niés. Donc, aujourd'hui, la situation, heureusement, c'est beaucoup plus propice pour les Kurdes parce que presque tous les partis politiques kurdes ont récemment boycotté et on a appelé la population kurde à ne pas participer aux élections qui est une mascarade, comme on dit.
Adel Bakawan, tout dernier mot peut-être sur ces Kurdes iraniens. C'est vrai que c'est les grands absents d'une certaine manière de cette question kurde qu'on pose nous très régulièrement. Et on voit qu'elle est très forte évidemment en Turquie, qu'elle est très forte en Irak et en Syrie, mais on la sent un peu absente du côté de l'Iran.
Alors, tout d'abord,
en quelques mots, on arrive voilà, presque à terme de cette
rapidement, je souhaite dire que la résistance kurde en Iran est une cause noble. Hein, il faut je la soutiens fortement. Mais malheureusement, la tragédie des Kurdes iraniens, c'est qu'ils sont pris en otage par l'OGRK de Massoud Barzani. Ils sont financés, armés, hébergés physiquement par Massoud Barzani. Une bonne relation du Barzani et du GRK avec Téhéran met entre parenthèses d'une manière tragique les Kurdes iraniens, les Kurdes iraniens. Et au moment où Barzani sa relation avec Téhéran se dégrade, il met en scène la résistance kurde iranien comme une carte de pression contre les ayatollahs de Téhéran.
Merci beaucoup à tous. En tout cas, merci à Khosro Abdollahi qui était avec nous ce matin, professeur du kurde à l'INALCO et représentant du Parti démocratique du Kurdistan iranien. Et un grand merci à vous également, Adel Bakawan, de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur cette très délicate question, mais absolument passionnante, du Kurdistan. Je rappelle que vous êtes sociologue franco-kurde, irakien, et que vous dirigez ce groupe de recherche sur indépendantisme, séparatisme, irrédentisme et construction de l'État. C'est exactement ça le titre du groupe de recherche à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Un grand merci à vous.
تعداد غري بلا من روجا تجمن دور كتي قريب كتي.
Et puis je rappellerai aussi que France Culture est coproducteur des rendez-vous de l'histoire du monde arabe qui vont commencer demain, le 18. La thématique choisie cette année, c'est la question des frontières. C'est pas complètement étranger à notre choix des frontières de cette semaine. Vous pouvez évidemment tout retrouver sur le site de l'Institut du monde arabe, mais aussi sur le site de France Culture.
زوال ايارام زوال.
Pour l'heure, il est 11h passé de 53 minutes, l'heure pour nous de se plonger dans le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors de la trahison. C'est le titre d'un nouvel essai publié par Avishai Margalit. Plusieurs de ses précédents livres ont été publiés par les éditions Climat. Celui-ci le sera probablement. Que peut-on en dire ?
Avishai Margalit a écrit dans un de ses précédents livres qu'on pourrait classer les philosophes en deux familles, en fonction de leurs abréviations préférées. Vous auriez ainsi les philosophes du IE et ceux du EG. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ces deux latino-anglicismes apparaissent de plus en plus souvent dans les ouvrages savants. Tous ceux qui les emploient connaissent-ils leur signification exacte ? Le premier, IE, pour id est, remplace notre c'est-à-dire et le second eg vaut pour exempli gratia ou par la grâce de l'exemple et pourrait être remplacé par notre par ex. Reste que la distinction fonctionne bien. On a en effet des philosophes spécialisés dans la définition, la compréhension et d'autres qui préfèrent partir de cas concrets. Des doctrines qui cherchent à dégager l'essence d'un objet et d'autres qui posent des archétypes. Et comme le remarque Michael Walzer dans l'article qu'il consacre dans la New York Review of Books au nouveau livre d'Avishai Margalit, ce dernier appartient clairement à la seconde catégorie. Oui, pour nous parler de la trahison, son sujet, il se sert en effet de cas concrets pris dans l'histoire, la littérature, les faits divers ou sa vie personnelle. L'actualité politique de son pays se devine toujours en toile de fond de la réflexion de cet universitaire israélien de renommée internationale. Dans son précédent livre « Du compromis et des compromis pourris, réflexions sur les paix justes et injustes », ce moraliste tentait de dégager les bases éthiques d'un compromis de paix avec les Palestiniens. Il montrait en particulier que la justice et la paix, tous deux désirables, ne sont pas nécessairement compatibles, et que certaines paix, obtenues en violant la justice, sont immorales. Exemple classique, les accords de paix de Munich avec Hitler en 1938, ou encore l'engagement pris à Yalta de livrer à Staline tous les prisonniers de guerre soviétiques se trouvant sur le territoire des Alliés à la fin des hostilités. Alors pour traiter de la trahison, Margalit commence par poser une distinction entre relations denses et relations légères. Les relations denses sont celles que nous entretenons avec nos amours, notre famille et nos amis. Au-delà commencent les liens qui nous unissent aux personnes avec lesquelles nous partageons un idéal commun, une patrie ou une religion. Au cœur de ces relations denses, il y a une mémoire collective partagée. Elle établit la possibilité de la fraternité, ce tiers-terme de notre fameuse devise républicaine. Pour Margalit, c'est l'éthique qui commande nos relations denses. La moralité, elle, concerne celle que nous entretenons avec l'humanité dans son ensemble. Là encore, il peut y avoir conflit. La moralité nous interdit le type de connivence que réclament parfois des compagnons qui nous veulent aussi leurs complices. Exemple, l'affaire Dreyfus. Au nom de l'éthique patriotique et de la solidarité de corps, on exigeait des officiers qu'ils sacrifient un innocent pour sauver l'honneur de la patrie.
Donc vous êtes un philosophe du EG, vous, ah bien. Alors Brice Couturier, quelles sont les institutions soudées par les relations les plus denses, selon Margalit en tout cas?
Les sectes, les mafias, les ligues extrémistes, elles imposent à leurs membres des relations effectivement d'une grande intensité, parce qu'elles font passer la dimension du symbolique et du sacré avant leur intérêt économique bien compris, elles sont donc incapables de passer des compromis. Elles sont aussi promptes à dénoncer en leur sein les traîtres. Margalit, lui, plaide une fois encore pour la transaction, la conciliation, le moindre mal. Moins la relation est dense, moins tombent les accusations de trahison. En politique, il est pour le compromis social-démocrate. En politique, où et quand commence la trahison? Réponse de Margalit, en temps de guerre, on éprouve un besoin vital de pouvoir faire confiance à ses concitoyens et plus encore aux institutions chargées de nous défendre. Autre cas concret, ça va vous plaire, le philosophe israélien consacre plusieurs pages au maréchal Pétain. A-t-il trahi, comme le disait De Gaulle, ou a-t-il sincèrement cru pouvoir épargner à ses compatriotes une catastrophe totale à la polonaise? Après un débat très argumenté, le verdict tombe. Pétain a trahi la volonté générale française, il a trahi la communauté de mémoire de la République. Pourquoi trahit-on? Ben généralement pour de l'argent ou pour des avantages, c'est le cas Judas. Mais aux yeux de Margalit, il est pire encore de trahir par conviction. Parce que cela confère aux traîtres les avantages d'une posture morale. La ferveur politique alors s'apparente à celle qu'on rencontre dans l'univers religieux. Les espions qui trahissent par idéal sont moralement plus condamnables et en tout cas plus dangereux que ceux qui sont mus par le simple appât du gain. Margalit estime qu'en Occident, la trahison amoureuse, autrement dit l'adultère, l'abandon de sa religion pour une autre ou pour aucune, autrement dit l'apostasie, la désertion de sa patrie pour des cieux plus commodes, ne font plus l'objet de la même réprobation qu'autrefois. C'est peut-être aussi que nos relations sont moins denses que par le passé. Les personnalités liquides décrites par Zygmunt Bauman ne connaissent ni attachement durable, ni fidélité. Et cela contribue à fragiliser nos sociétés face aux sectes politico-religieuses religieuses qui veulent leur disparition.
Merci beaucoup Brice Couturier. De la trahison, donc le titre du nouvel essai publié par Avishai Margalit. On peut retrouver évidemment toutes ces références sur le site de France Culture, sur votre page Brice. Un grand merci, on se retrouve demain dans quelques instants sur France Culture. C'est La Grande Table avec Olivia Gesbert.